Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace vital est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme
c'est comme
de nous dire que la France avance alors qu'elle pend par la répression stoppée net la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était c'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? En effet,
comme le veut la société,
c'est un fait, mais
il est temps que cela cesse. Pas face à l'allégresse pour que notre jeunesse dynamique vengeresse
brûle l'État.
Policiers en premier, et on voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu à nous de chanter les dés. Décidez donc, mentalement de s'équiper.
Quoi?
T'es miro, tu vois pas, tu fais semblant, tu ne m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix.
Beaucoup
sont déjà dans ce cas.
Voilà
pourquoi cela finira dans le désarroi.
Salut.
C'est
bien papillon, hein, c'est juste que nous avons perdu notre générique habituel, vu que Soso et Payoup nous ont lâchement abandonnés. Payoup pour faire du rock'n'roll, Sophie pour aller voir le match en famille. Donc voilà, vous avez droit à NTM comme générique de début, plutôt que le générique habituel.
Bon, mais c'est bien, ça change. Mais ça n'empêche que vous êtes quand même à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5. Pour présenter en deux mots Papillon, c'est une émission sans compromis avec l'État qui parle des prisons, des détenus et de leurs proches. On veut être le relais entre ce qui se vit en détention et l'extérieur. C'est pourquoi n'hésitez pas à nous faire part de votre vécu de prisonnier ou de proche de prisonnier. Nous sommes là pour dénoncer et faire réfléchir sur l'idée d'enfermement et toutes les conséquences qui en découlent. Bienvenue à tous et bonne écoute. Alors d'abord, je vais vous rappeler quand même l'adresse de Radio Dio, qui est par la poste au 14 rue de Roubaix, 42 100. Bon, c'est pour l'émission Papillon, à préciser. Et sinon, vous pouvez nous contacter aussi par Internet. L'adresse Internet, c'est émission Papillon en un seul mot, @, puis riseup, RISEUP, en un seul mot, .net. Alors, ça c'est fait. Maintenant, le sommaire de l'émission. Alors, nous avons tout d'abord une interview de Jacques Lesage de La Haye qui nous rapporte entre autres une réflexion sur la vie sexuelle en détention. Puis nous aurons des témoignages de détenus, témoignages qui seront lus par nos camarades. Et pour terminer, nous rebondirons sur les unités de vie familiale. Et bien sûr, nous terminerons l'émission par l'agenda. Voilà.
Ok, donc moi, ouais, je voulais préciser que donc là, on est en direct, on est le 5 avril, et cette émission sera rediffusée le jeudi 9 avril à midi, donc toujours sur Radio Dio, 89.5 FM, et elle est aussi rediffusée le mardi à 20h sur Radio Canu en région lyonnaise, donc c'est sur 102.2 FM. Et alors normalement c'est le troisième mardi du mois, donc ça devrait tomber le mardi 21 avril. Voilà, donc on va partir tout de suite sur cette espèce d'émission un peu spéciale qu'on voulait faire. On avait envie de parler de la sexualité en prison, tout en sachant que on ne se sentait pas les mieux placés pour en parler, mais on avait quand même envie de parler un peu du fait que, entre autres, en prison, la sexualité est complètement bridée et que ça a un impact énorme sur le corps et la vie des gens. Et on n'en parle pas beaucoup. Et comme nous, on ne se sentait pas les mieux placés pour en parler, et ben donc, comme Olga vous l'a dit, on allait interviewer Jacques Lesage de La Haye, entre autres. Et puis, On a lu des textes écrits par des autres gens. Voilà. Et donc, on va passer tout de suite à l'interview de Jacques Lesage de La Haye. Donc, il se présentera lui-même dans l'interview, je crois.
Oui, oui.
Oui, c'est ça.
On est allé l'interviewer, je ne sais plus, il y a un mois ou deux, à peu près. Il faisait une conférence débat à Lyon. C'était très intéressant. Et avant, il nous a accueillis. Et puis, voilà. Il a répondu à quelques-unes de nos questions. Ça ne parle pas que de la sexualité en prison. Ça parle un peu de Jacques Lesage de La Haye, sa vie, son œuvre, tout ça, quoi.
Son cul.
C'est 11 ans et demi de prison, donc entre 18 ans et demi et 30 ans. En tôle, j'ai évidemment tout de suite été rebelle parce que j'étais comme tous les gens ordinaires, je ne savais pas que ça existait. J'avais fait mon délinquant des casses et des braquages, mais je n'imaginais pas que quand on se faisait prendre, on tombait sur une machine à éliminer l'individu. Ça m'a beaucoup révolté, je me suis trouvé donc dans trois mouvements de rébellion à l'intérieur de la tôle. Je les ai payés très cher avec des déclassements et des mises au quartier d'isolement. J'ai fait un peu de mitard aussi. Mais dans l'ensemble, si à toutes ces occasions-là, je n'ai pas eu de remise de peine pour les mouvements et pour les trois fois où j'ai été mis au mitard, les autres années, j'avais des remises de peine parce que j'avais décidé de faire des études.
Et toi, tu as été en détention alors à quelle époque ?
Ah, c'est très très vieux, moi c'est avant-guerre. Hein. Je suis rentré en prison en 1957 et je suis sorti en 1968, mais
d'accord,
malheureusement pas au mois de mai, en octobre seulement. Donc cette époque était extrêmement répressive, c'était une époque qui semblait et semblerait encore beaucoup plus dure que les prisons d'aujourd'hui. J'y suis retourné pour raisons politiques une fois en 1976 et déjà j'ai trouvé que ça avait changé au point que c'était presque supportable. Je suis retourné de 86 à 2007, mais là en tant que psychologue pour faire des groupes de parole avec des détenus à Bois d'Arcy et puis ensuite à Villepinte, donc dans les Yvelines et dans le 9-3. Et j'ai trouvé que ça s'était tellement amélioré que, comme disent les vieux taulards, mes copains, c'est devenu un club med. Mais c'est qu'une apparence, parce qu'à mon époque, on se suicidait 4 fois plus que dans la société et maintenant, on se suicide 7 fois plus. Donc clairement, ça veut dire que malgré cette apparence d'amélioration des conditions de détention, le décalage entre la prison et la société s'est aggravé. En clair, ça veut dire que la prison est pire qu'à cette époque-là. Donc, pour terminer sur la présentation, j'ai passé une partie de ces années-là à écrire des bouquins, à faire du yoga, à faire du sport, le reste du temps à travailler pour l'administration pénitentiaire en étant sous-payé, mais en faisant des études. Donc j'ai passé mon bac. J'ai passé je ne sais pas combien de certificats de psychologie, de lettres et autres matières, sciences politiques et compagnie. Ce qui fait que j'ai commencé une thèse de doctorat sur la frustration sexuelle et affective du détenu, mais à l'époque interdite par l'administration pénitentiaire. Le représentant de l'administration pénitentiaire, à la direction, m'avait dit que ça ne pouvait être fait que par un éducateur, le psychiatre ou à la rigueur le surveillant-chef, et pas un détenu. Donc je l'ai faite clandestinement et ça m'a valu beaucoup de répression. J'avais beaucoup de rapports faits par les surveillants parce qu'on me voyait interviewer avec des cahiers, des camarades sur les bancs, en promenade ou bien sur le terrain de sport. Alors,
Tu es passé pour un original quand même.
Ah non, je passais pour un meneur, c'était bien pire.
Ah oui.
Original, non pas du tout, j'étais pas original, j'étais un voyou. Je faisais partie des 40 voyous sur les 400 détenus, donc les ennemis de l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, hein, c'est fini maintenant. Il y a d'autres clivages, hélas, bien pires. Mais ça fait que j'étais respecté en tant que voyou, mais regardé comme subversif parce que je faisais des études. Ça pouvait donner des conneries qui vous paraîtraient ridicules aujourd'hui. Le sage, c'est pas parce que vous faites des études que vous vous croyez supérieur aux autres. Taisez-vous. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Ou alors, retirez les mains de vos poches. Il y avait donc une espèce de rapport de force entre l'administration et moi, où pour eux, il était évident que faisant des études, j'étais un meneur. Et comme j'ai été trois fois dans les mouvements de révolte, si je puis dire, 61, 63 et 65, c'est très vieux, hein, vous n'étiez pas nés. Et bien, donc, j'étais dans le collimateur avec un dossier en rouge et très très mal vu par l'administration pénitentiaire. Je suis évidemment sorti révolté, en colère, mais débile sur le plan politique. La seule prise de conscience politique que j'avais, en dehors du fait de dire que j'étais anarchiste, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, c'était qu'il fallait faire un syndicat de prisonniers. Ce syndicat a existé d'ailleurs en 1985 sous le nom de Association syndicale des prisonniers de France. Les taulards avaient leur président Jacques Gambier à Fleury-Mérogis, des vice-présidents dans toutes les tôles de France, enfin 35 tôles en France, entre autres Simeoni et puis un autre après à Marseille. Et il m'avait demandé d'être le président extérieur. Donc quelque part, en 85, on a réalisé ce qui pour moi était la seule chose à faire. Mais heureusement, j'avais effectué d'autres prises de conscience politiques, surtout en militant à partir de 71, avec le groupe Information Prison, dans lequel il y avait des anciens taulards et beaucoup d'intellos comme Michel Foucault. Et puis plus tard, quand Serge Livrosé est arrivé, à partir de 72, quand on a fait le comité d'action des prisonniers. Là, j'ai vraiment enfin compris ce que voulait dire l'anarchisme. Et donc, ça m'a amené à militer d'une autre manière.
D'accord. Et est-ce que tu peux revenir sur le GIP, le CAP, qu'est-ce que c'est et...
En 71, un groupe d'intellectuels, comprenant Michel Foucault, Gilles Deleuze, professeur à Paris 8, Jean-Jacques de Félis, l'avocat, Vidal Naquet, un historien, et puis plein d'autres intellos de gauche, Daniel Defferre, Jacques Donzelot et compagnie, décident de créer un groupe d'information sur les prisons, donc le fameux GIP. Je suis informé par un ami assistant social, et donc j'ai rejoint le groupe. J'ai fait beaucoup d'actions avec Foucault et Daniel Defferre, son compagnon. On a publié des plaquettes qui s'appelaient Les Intolérables, et c'est la première fois où, publiquement, en France, j'ai commencé à parler du parloir libre, qu'on a appelé parloir intime, après parloir conjugal, et puis maintenant unité de vie familiale. Comme personne n'a jamais voulu en parler de ça. Ça, c'est l'hypocrisie, c'est la lâcheté, c'est la honte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a politiquement pour regarder ce problème comme étant honteux. Je me suis dit, je ne veux pas parler des quartiers d'isolement, du mitard, du droit d'association, salaire minimum correct, les avantages sociaux pour les taulards, des soins médicaux et dentaires, enfin, toutes les choses que vous connaissez. Je me suis battu pour ça, bien sûr, mais j'ai dit je vais prendre à bras-le-corps la question de la sexualité, personne n'en parle. C'est l'hypocrisie, c'est la peur, la honte, enfin bon. Donc, moi, j'ai commencé à parler de ça pour la première fois en 71. Et puis, le GIP n'a pas duré très longtemps, parce qu'à ce moment-là, en 72, Serge Livrosé est sorti, il a dit « Seuls les taulards ont le droit de parler de la tôle, et c'est pas les intellos qui nous donnent la parole, nous prenons la parole ». Moi, j'étais d'accord, mais je pensais qu'il ne fallait pas jeter les taulards. Fallait pas jeter les intellos. Donc, je me suis dit, moi, je rejoins le CAP, je suis d'accord avec Serge, et puis tous les autres qui en ont fait partie, Jean Lapéry, Catherine Leguet, Muriel Rimbaud, surnommée Bébé en peluche, Annie Livrosé, la femme de Serge, Michel Boralec a été un des piliers,
c'est Jean Lapéry, d'ailleurs. C'est avant tout un journal, le CAP.
Oui, et on avait le journal des prisonniers... qui était un canard très offensif, qu'on a vendu partout devant les tôles, qui nous a permis de financer une action autour de la prison de Mende, qui était le deuxième quartier d'isolement historique en France après Beaune. Et c'est vrai que là, c'est d'autres luttes qui ont été beaucoup plus offensives, qui ont duré jusqu'en 80, puisque ça a été de décembre 72 jusqu'à février 80. Juste pour ça, parce que les luttes, il y en a plein. On a défendu des prisonniers... où on a défendu aussi des causes, des luttes collectives. On a dénoncé l'assassinat de Patrick Mirval en 1974. Enfin, il y en a un paquet d'actions qu'on a faites toutes assez spectaculaires et souvent véhiculées au moins au niveau de l'écriture par le journal.
Et Comment tu expliquerais, toi, qu'aujourd'hui, il n'y ait plus des mouvements comme ces mouvements, comme le GIP, comme le CAP. Il n'y a plus de mouvements, aussi, même s'il y a des intellectuels ou que des taulards, qui seraient là pour défendre la détention.
Oh ben, la réponse est simple. Malheureusement, je ne fais que redire ce que vous savez, ce que vous dites vous-même et ce que beaucoup de gens disent. Il y a eu un basculement à partir de 81, puisque la gauche est arrivée au pouvoir. Beaucoup de naïfs parmi nous ont dit « ça y est, on a gagné, c'est bon, on va pas leur taper dessus, ce sont pas nos ennemis ». Beaucoup d'entre nous sont allés danser à la Bastille. Manque de peau, enfin la Bastille, je parle pour Paris, parce que ici vous avez peut-être dansé, ou vos parents ont dansé sur une place qui est bien connue là. Moi je connais un peu l'histoire de Lyon, parce que j'ai lutté avec les prostituées de Lyon, de Marseille et de Paris, à l'époque des églises, de l'occupation des églises. Donc j'ai bien connu la ville de Lyon. Rencontrer toute la bande, Barbara, Hula, Jennifer, Minouche, tout ça, et comme les Marseillaises et les Parisiennes, donc je vois très bien comment ça a dû se passer en 81, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Alors, mis à part l'abolition de la peine de mort, moi, j'ai pas vu grand-chose de changer, et donc, ce qui s'est passé, c'est que les militants se sont calmés, certains même ont été récupérés, sont rentrés dans les bureaux ou les secrétariats des ministères. Ils ont dit « on va faire passer nos idées », ils n'ont rien fait passer du tout, parce qu'en pareil cas, c'est toujours comme ça, on est récupéré. C'est comme le fameux entrisme des trotskistes. Ils ont peut-être réussi des coups avec leur entrisme, mais dans la plupart des cas, quand ils sont vraiment rentrés dans la politique, la vraie politique, c'est-à-dire la politique politicarde, politicienne, récupératrice, manipulatrice, ben ils sont fait récupérer comme les autres. Ils n'étaient plus trotskistes du tout. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe pour Besançon en ce moment. Moi, je trouve ça pénible. Hein. Enfin, passons. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient un repli individuel. Il y a la déception du fait que les gens deviennent déçus de la gauche, ce qui est ridicule. C'est avant qu'on doit prévoir qu'on va être déçu par eux. Donc on n'est pas déçu. On prend les mesures qui s'imposent. C'est l'action directe. Et l'action directe, c'est pas aller faire péter des bombes. C'est on décide des choses qui détournent, qui subvertissent le système capitaliste. Mais à l'époque, personne n'a compris ça. Donc repli individualiste. Le repli individualiste, c'est que les gens, ils ont la haine, ils sont en colère, ils sont déçus, ils sont frustrés. Donc ils partent sur des coups quand on leur enfonce un trognon trop loin et trop longtemps. À partir de là, il y a des actions sporadiques, mais il n'y a plus de prise de conscience politique, il n'y a plus de lutte collective, il n'y a plus du tout d'action offensive, il n'y a pas de groupe très durable, efficace sur la lutte anticarcérale. Et en plus, les quelques groupes qui existent sont en conflit entre des marxistes-léninistes, des anars et des libertaires, pas anars organisationnels, parce qu'ils considèrent que les anars sont des autoritaires. Et à ce moment-là, c'est un foutoir de merde que je vois depuis 81, 82, 83 et 84. Et c'est ça. Et donc, à partir de là, vous avez des collectifs isolés partout, mais il n'y a pas un gros collectif comme le CAP qui mène une action frontale contre l'État et contre la prison. La raison en est que les années 70 étaient les travaux pratiques de 68. Il y avait le sens du collectif, il y avait un esprit communautariste, mais pas dans le sens d'aujourd'hui qui est un repli complètement extrémiste. Et cet esprit communautariste était sur le modèle des lieux de vie, dont un certain nombre étaient en démocratie directe. Quand je suis allé dans un de nos lieux de vie à Gourgas, près de Saint-Hippolyte-du-Fort, il y avait des copains de marge qui étaient là. Il y avait aussi des copains qu'on appelait les routiers qui venaient de l'Aude, et ben ça, c'était vraiment l'autogestion. Donc, il y a eu un climat qui s'est cassé la gueule en 81, et maintenant, c'est de pire en pire. En plus, je crois que les gens se laissent manipuler par les politiques qui leur font croire qu'ils ont peur. Donc, ils ont encore plus peur que ce qu'ils croient, et ils appellent au secours, ou ils acceptent la fausse protection de ceux qui les exploitent, ce qui fait que maintenant, les mouvements collectifs sont bien difficiles à réaliser. Ou alors, il faut vraiment que les gens soit acculé le dos au mur avec l'histoire du pouvoir d'achat et des abus comme on voit en Guadeloupe pour qu'ils commencent à bouger, mais sinon ça bouge plus.
Et on va repartir sur un autre sujet. Toi, tu es un peu un spécialiste sur la sexualité en prison. Est-ce que tu pourrais nous résumer ta position et quel a été ton combat par rapport à ça, quoi?
Alors la première chose, je dirais que je ne me considère pas du tout spécialiste. Je considère qu'en tant que psychologue, j'ai commencé par faire une thèse de doctorat que je n'ai pas soutenue. Sur la sexualité en prison, parce qu'une fois que je suis sorti, moi, j'ai milité, j'ai fini de faire des études que je n'avais pas pu finir en bossant, donc j'ai travaillé, j'ai couru les nanas comme un fou, parce qu'après 11 ans et demi, je peux vous dire qu'on est grave, hein. Donc, finir une thèse de doctorat, j'ai laissé tomber. Et je m'en tape. D'ailleurs, j'ai fait un livre de vulgarisation sur le même sujet, La guillotine du sexe. Donc, je m'en suis foutu de ma thèse de doctorat. Donc, au fond, j'ai constaté cette souffrance terrible des mecs et une chose dont personne ne parle. À la fin de ma peine, il s'est passé une chose incroyable. Les détenus me respectaient en tant que voyou parce que je ne me mettais pas à table, parce que je ne balançais pas, parce que j'étais un voyou. On m'a même demandé d'être juge en fin de peine, c'est-à-dire arbitrer des conflits entre des voyous, alors que j'étais très jeune. À 27 ans, Jaco, tu viens, il y a un conflit entre Jeannot le Marseillais et François le Guadeloupéen. Est-ce que tu peux venir faire le juge? Alors Jeannot est un ami, François est un ami, je suis né à la Martinique, lui il est de la Guadeloupe. Jeannot c'est un ami à moi, est ami avec Attel qui est un ami à moi de Lyon et puis l'autre ami de Paris. Donc on va essayer de s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, il t'a bousculé et l'autre il t'a dit enculé. C'est pas un enculé du tout, tu peux considérer que c'est une erreur, il t'a bousculé, il t'avait pas vu, il te respecte. Voilà, on a fait de l'arbitrage comme ça, mais attention des grosses pointures. Soit ils se bastonnent, soit ils se filent des coups de couteau, soit ils vont se tirer des coups de feu, ou alors il y aura des règlements de compte. Donc voilà. J'étais hyper respecté. Donc quand moi, je me suis dit, il faut que j'aborde ce sujet, je suis respecté par tous les taulards, et j'étais respecté par ceux qui étaient méprisés par les voyous, c'est-à-dire les criminels sexuels. Et il y en avait beaucoup à la centrale de Caen. J'étais respecté parce que moi, je leur serrais la main. Moi, je disais aux voyous, moi, je serre la main, aussi aux pointeurs. Pour moi, un pointeur, il n'est pas inférieur. J'ai dit, ah oui, mais ils m'ont dit, fais attention, Jaco, tu peux être assimilé. Le premier qui m'assimile à un pointeur, ça sera très grave. Non, non, Jaco, on ne te dit pas ça comme ça. J'ai dit, bon, ben, c'est bon. Donc, quand j'ai commencé mon interview, bah, tout le monde m'a répondu. J'ai interviewé 60 détenus et il n'y en a que 3 qui m'ont dit non, c'est personnel, oh, je viens d'être jugé, ça va me faire revivre mes histoires, c'est trop dur. Lui, c'était un criminel sexuel. Puis un autre, il avait trouvé une solution, il pensait à rien et il se concentrait pour dormir et en dormant rêver de nana. C'était son seul truc. Donc, il ne voulait pas en parler. Donc, j'ai fait mes 60 interviews parce qu'en tant que taulard, j'étais respecté par les autres taulards de toutes les catégories de taulards. Donc, ce que j'ai constaté, bah, la frustration est massive. C'est véritablement du travail en laboratoire fait comme si c'était une expérience, comme l'expérience de Stanford. C'est une expérience qui est faite de fait, parce que je ne pense pas qu'ils l'ont imaginée volontairement. Par contre, ils le savent très bien, ils n'en ont rien à cirer. Donc, on a des réactions extrêmes de gens complètement détruits. Alors, il y a les suicides, bien sûr. Ce n'est pas que la frustration sexuelle, mais c'est un des éléments. Il y a également une homosexualité de circonstance. À Caen, j'ai constaté que 20 détenus avaient été fichés comme homosexuels à l'entrée. 97 avaient eu une ou plusieurs pratiques homosexuelles. Là, l'enquête est incontournable. Donc, on se dit, tiens, homosexualité de circonstance, c'est pas un choix libre. Bon, qu'est-ce qu'il faut en penser? La masturbation était vraiment quasi systématique, mais pas une masturbation joyeuse comme celle que l'on peut faire... quand on est libre, heureux et dans le plaisir et l'acceptation de soi, ou alors à deux, encore mieux, quand on s'aime mutuellement et on se désire mutuellement, c'est plutôt une masturbation de survie et avec culpabilité. Donc la honte, l'impression d'être humilié, de s'être abaissé. Et puis plein de déviations que j'ai vues et qui m'ont impressionné, du fétichisme, donc ils rendent des sous-vêtements féminins, des trafics de revues et de photos porno, ça continue aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup supplanté ça, c'est la télé. Donc Canal+, et d'autres émissions érotiques, voire pornographiques. Il y a eu un sous-directeur à Melun qui avait mis sur le canal interne une fois par semaine des films porno. Donc les détenus disaient c'est un bon maton. Et en fait, ça a arrêté le jour où est arrivée une nouvelle sous-directrice qui a dit du cul ici, jamais, et hop, elle a mis le truc en l'air. Mais les mecs, ils ont été mal. Et il y a eu des remous là, dans la détention. J'ai vu aussi un truc inimaginable avec une truie. Il y avait un vieux qu'on appelait Nénès qui était proxénète de la truie dans le jardin et il faisait payer un paquet de tabac aux détenus qui se tapaient la truie. Moi, j'étais hyper choqué. Mais on m'a dit, mais non, Jaco, tu devrais essayer, tu verrais. La truie, c'est celle qui a les organes sexuels qui se rapprochent le plus de ceux de la femme. Alors là, j'ai été atterré. Oui, non, mais c'est des trucs affreux. Sauf que j'ai su, grâce à Gérard Delteil, qui a fait un livre terrible, Le baiser de la couleuvre, il y avait un détenu à Clairvaux qui se faisait faire des fellations par un serpent. Et ça s'est arrêté le jour où un surveillant a tué le serpent. Mais la fin de l'histoire est tragique. Je ne me rappelle pas si le mec s'est suicidé ou si, une fois sorti, il est allé tuer le surveillant. Mais l'histoire est vraie. Il y a eu aussi à Fresnes, 4 mineurs qui ont réussi à récupérer une chatte. Comme le sexe était trop petit, ils l'ont ouvert au couteau et tous les 4 l'ont violé. Donc, quand des gens en arrivent là, il faut imaginer dans quel état ils sont. Ce qu'ils ont fait n'est pas défendable dans aucun de ces cas-là. Mais ce que je pense qu'il faut dire, c'est tirez vos conclusions vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de la situation où on met des gens dans cette situation-là? Alors, il y avait aussi des espèces de prostitution pour des mecs qui n'avaient pas d'argent, des indigents, comme on dit, en prison. Donc, ils couchaient avec d'autres mecs pour avoir de la comptine, puisque tout s'achète, y compris le papier hygiénique, le sucre et compagnie. Donc, ils se prostituaient avec des mecs, et ça, ça existe toujours. Il y a des prisons où ça se fait plus que d'autres, c'est surtout celles où il n'y a pas que des voyous. Chez les voyous, on a une mentalité, on n'est pas des PD, bon, c'est tous les discours un peu idiots et machistes que vous entendez en prison. Par exemple, vous irez à Clairvaux, à Moulin-Isère, c'est quasiment inexistant. Par contre, il y a des tôles comme Ensisheim dans l'Est, Caen encore bien sûr, Casabianda en Corse, Muret, où il y a quand même beaucoup plus d'homosexuels. Et c'est mal vu dans les prisons. Parce qu'il y a une sorte d'angoisse par rapport à l'homosexualité et une culpabilité, et ce qui fait que quand c'est que des voyous entre eux, ils vont se l'interdire avec rigidité, avec la morale du milieu, même s'il n'y a plus de milieu, alors que dans les autres tôles, bah, les mecs acculés à cette frustration affective et sexuelle, même s'ils n'ont pas le choix, si je puis dire, n'auront pas cette espèce de morale rigide du voyou, et ils accepteront de compenser ou surcompenser en ayant des relations homosexuelles. Mais c'est quelque chose que l'administration sait et gère.
Et toi, tu as participé à des combats, justement. Tu parlais tout à l'heure des parloirs, justement, sexuels, choses comme ça. Et, tu peux nous en parler un peu?
Ben, c'est une des luttes que j'ai menées, puisque personne n'a voulu l'empoigner à bras-le-corps. Donc, j'ai fait ça de 71 à aujourd'hui. Je ne me suis pas arrêté. Les combats que j'ai menés, ben, il y a eu un moment avec le comité d'action des prisonniers en 76, on avait fait un numéro spécial affectivité et sexualité en prison, là on avait tous écrit là-dessus. Bon, j'avais été un peu la charpente de ce numéro-là. On en a parlé aussi dans notre journal de marge, le mouvement Anar dont je parlais tout à l'heure. J'ai continué à faire plein de conférences, des dizaines d'articles sur le sujet dans toutes les revues possibles et imaginables, et pas seulement anarchistes. Les débats, j'en ai fait partout et pas qu'en France. Je suis allé dans d'autres pays où je suis allé parler de ça. J'ai essayé de me renseigner sur tout ce qui se passait dans le monde. Là, j'ai vu en 84 qu'il y avait déjà 25 pays qui avaient des parloirs intimes à travers le monde. En Espagne, les vis-à-vis, la roulotte au Canada depuis 79, également en Suède depuis 79. Il y en avait en Inde dans des camps, il y en avait au Mexique à la Camera Intima de Toluca. Il y en avait dans certains endroits de l'Union soviétique, il y en avait dans des pays comme la Lituanie à tomber par terre. Nous, on se prend pour des gens supérieurs aux autres, mais dans ce domaine-là, on est largué par beaucoup de pays. Bref, j'ai fait des constats accablants. Donc j'ai sorti la première édition de la guillotine du sexe en 78, elle a été épuisée. En 91, c'est les éditions du Monde Libertaire qui l'ont rééditée, elle a été épuisée. Et en 98, la dernière édition, qui court toujours, a été réédité par l'Atelier de création libertaire, parce qu'ils ont publié beaucoup de choses que j'ai écrites. Et en 84, comme à chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre de la Justice, j'envoyais la guillotine du sexe, plus tard, j'envoyais aussi L'Homme de métal, un roman qui aborde la même question, mais sous la forme roman, j'envoyais ça à chaque nouveau garde des Sceaux. Et Badinter m'a demandé de participer à une commission, en 84-85, la commission architecture, où j'ai mené un combat d'enfer sur la sexualité en prison, ce qui n'empêche pas que je menais tous les autres combats ailleurs. Mais celui-là, je le menais seul, parce qu'il n'y avait pas grand monde pour me soutenir dans cette histoire. On me disait, c'est ton problème, si tu parles de ça, qu'est-ce que tu as dû souffrir, mon pauvre Jaco? Ou bien tu es un pornographe, tu es un misérabiliste, pourquoi parler de cul? Il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, j'ai constaté que par rapport aux 60 détenus interviewés, 50% disent le pire, c'est le manque de liberté. 50% disent le pire, c'est le manque de sexualité et d'affectivité. Donc, à nous de faire notre choix après. Moi, je m'en fous, je dis ce que les taulards ont dit. Alors, j'ai retourné la commission architecture, et quand Mosaq a été créé en 86, qui venait des concepts qui avaient été posés par cette commission, eh ben, le directeur, en accord à ce que j'ai réussi à faire passer dans cette commission, a mis un parloir intime clandestin. Badinter avait dit « il faut faire vite ». La droite va passer aux élections de 85. Et c'est vrai, Mitterrand était toujours président, mais c'est Chirac, Premier ministre, qui a nommé Chalandon, le spécialiste des Chalandonnettes, donc beaucoup d'argent dans les fouillettes, ministre de la Justice. Et son chef de cabinet, Calvet, a dit, parlant intime à Mossack, jamais. Le directeur avait lu le rapport qu'on avait remis à Banater, donc mes propres notes. Ben moi, je mets un parloir intime, mais officieux, puisqu'il n'y en a pas. Et donc, de 86 à 89, il y a quand même 8 bébés parloirs qui sont nés. Donc, je sais qu'il y a au moins 8 fois des gens qui ont fait l'amour, mais vous imaginez bien qu'à chaque fois qu'on fait l'amour, on ne fait pas un bébé. Donc, c'est une victoire, mais très ponctuelle et peu connue. Mais il y a des témoignages qui ont fait que je l'ai dit partout. Après, je ne me suis pas gêné pour faciliter l'évolution. Après, j'ai participé à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'actions, ce serait trop long de le dire. Sachez simplement que ça a commencé à bouger à partir de 95, une commission 90 et 95, dans laquelle se trouvait celui qui était le spécialiste de la prévention de la délinquance, Gilbert Bonnemaison. Et ils ont repris tout ce que j'ai dit, mais avec un discours paternaliste. C'était pour éviter la rupture des liens familiaux, maintenir un parloir intime. Et là, ça a été repris par les gouvernements de gauche, donc Elisabeth Guigou et Marie-Lise Lebranchu qui ont dit, mais on va mettre le parloir intime en route en 98. Et j'ai été invité à France 3 en septembre 2003. Est-ce que vous êtes content, monsieur le sage de la haie, parce que ce que vous réclamez depuis si longtemps existe aujourd'hui pour la première fois en France, le parloir intime chez les femmes à la maison centrale de Rennes. J'ai dit oui, je suis content. Je suis très content parce que quand Badinter m'a chargé d'aller interviewer les taulards et les taulardes en France sur cette question-là, j'ai eu une réponse positive. Oui, nous voulons le parloir intime. Et entre autres, les femmes de la centrale de Rennes me l'avaient dit. Donc je suis heureux, mais je ne suis pas heureux. Aujourd'hui, en France, en 2003, il y a 188 taules. Il y en a donc encore 187 où il faut mettre le parloir intime. Mais la conclusion de ce combat, c'est pour finir de répondre à la question et ne pas être trop long, c'est que le parloir intime, oui, je pense qu'il faut le mettre en route tant que la prison existe, mais dans le but, pour moi, de l'abolition de la prison, soit en société capitaliste, mettre en place un maximum d'alternatives pour éviter à des gens d'aller en prison, ce qui entraîne plus de récidives que quand il n'y a pas de prison, ou en société libertaire, trouver une prévention ou une gestion de la délinquance en évitant de toute façon l'enfermement, qui n'est pas une solution ni pédagogique ni thérapeutique. Bah oui, évidemment, moi je défends le parloir intime puisque l'amélioration des conditions de détention, c'est un de nos combats, donc c'est un des 10 points des plateformes de revendication de tous les taulards. Mais la première chose que je dis aussi, c'est que dès qu'il y aurait les 190, peut-être même avant, il faut lutter contre le parloir intime qui, quelque part, pérennise la prison et la justifie, à tel point qu'on va dire « Oh ben, il n'y a pas besoin de les faire sortir, ils sont heureux, ils ont un parloir intime. » Donc moi, je suis pour me battre contre le parloir intime, ce qui fait d'ailleurs que je suis dans une solution extrémiste et paradoxale qui choque beaucoup les gens du gouvernement, qui disent « Bah, vous avez été le promoteur des parloirs intimes, maintenant vous dites qu'il faut les détruire. » Oui, on les fait sauter en même temps qu'on fait sauter la prison.
Donc, d'après toi, on n'attend pas la révolution pour faire sauter les prisons. Est-ce qu'on peut y parvenir dans notre monde capitaliste?
C'est une question qui est très délicate et dont je discute depuis 1971 avec toutes les générations de compagnons et de compagnes qui se sont interrogées, donc au GIP, au CAP. Au CAP J, après, qui a eu lieu de 80 à 86 avec Jean Lapéry, Elisabeth Auerbacher, des anciens du CAP, mais qui ont déplacé l'axe de lutte contre la prison vers une lutte anti-judiciaire, anti-magistrat, avec des placards qu'on mettait « wanted », tel juge il est raciste, tel juge il est sexiste, tel juge, etc. Mais on n'a jamais réussi à être d'accord, on s'est toujours engueulé là-dessus. Et le dernier avec qui on a beaucoup discuté à Ras-les-Murs, avant qu'il nous quitte pour rejoindre l'Observatoire international des prisons, c'est Patrick Marest. Lui, il pense que la prison peut disparaître en société capitaliste. Moi, je ne le crois pas. C'est-à-dire que la prison, comme l'hôpital psychiatrique, même si moi, en tant que psychologue, j'ai réussi à faire fermer avec un petit groupe le service psychiatrique où j'ai travaillé, puisqu'en 99, on a quitté l'hôpital et on est parti occuper une unité d'hospitalisation brève à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. On venait de l'hôpital de Villebras. Je pense que si nous avons pu croire qu'on avait remporté la victoire sur l'hôpital psychiatrique en le détournant, le contournant, c'est-à-dire en sortant, on se serait trompé pour la bonne raison que les unités d'hospitalisation psychiatrique brève, quelque part, reproduisent de manière moléculaire, comme aurait dit Félix Guattari, le grand asile psychiatrique qui est vraiment un bastion à foutre par terre. Donc, il y a de nouveau des combats à mener dans chacune des unités, et ce sera de plus en plus difficile, puisqu'il n'y aura que des petits collectifs contre de petites unités. Ce sera des combats éclatés, mais qui seront la continuité, et non pas le renouveau, la continuité du combat antipsychiatrique ou alternatif à la psychiatrie qu'on a amené. Eh bien, la question est la même par rapport à la prison. Même si en société capitaliste, on arrive à décapiter les trois quarts de la population pénale, je veux dire par là faire en sorte qu'il y ait un traitement de la délinquance ou de la criminalité par des alternatives, il ne sera pas vraiment possible que la prison disparaisse, pour la bonne raison que même si un Obama pense qu'il est politique de faire sauter Guantanamo, pour l'instant il n'a pas aboli la peine de mort et encore moins la prison. Et partout, les prisons sont des outils très efficaces pour défendre le pouvoir, donc maintenir l'État, sont les piliers de l'État, avec l'hôpital psychiatrique, avec l'armée, avec la police, avec d'une certaine façon la précarisation des travailleurs, quel que soit le système, usine ou pas usine, entreprise ou pas entreprise, parce qu'en fait, ce système crée une situation qui profite à quelques-uns en excluant une majorité, et tous ceux qui se dressent, qu'ils soient conscientisés politiquement ou non, des rebelles ou des déviants, sont immédiatement exclus, enfermés, éliminés d'une manière ou d'une autre, avec médicaments ou sans médicaments, mais de toute façon enfermés, et ça sert d'exemple. Comme le disait Farid, un des anciens de Ralémur, un taulard, la prison est destinée à faire croire à ceux du dehors qu'ils sont libres. Ah ben, il a tout compris, lui. À partir du moment où il y a des prisons, on met à l'ombre ceux qui sont les méchants, les bons sont dehors, donc la liberté et la récompense pour les bons, l'enfermement pour les méchants. Qui parmi nous, ensuite, même exploité et exclu, va se dresser en tant que rebelle, marginal, agent de la subversion, révolté, voire révolutionnaire? Pas beaucoup. On sait que la menace est immédiate, et comme le système est pervers, habile, récupérateur, paternaliste et sécuritaire, on nous tire des plans précis, c'est à nous de les repérer, de les analyser, mais aussi d'avoir la détermination pour se mettre en face.
Puis, moi, j'ai peut-être une dernière question pour la route. En fait.
Je me demandais l'intérêt pour toi d'animer une émission de radio, en fait. Est-ce que c'est une forme de lutte, parce qu'on a un peu le même format, nous, avec Papillon. Est-ce que c'est réellement une forme de... C'est une manière pour toi de lutter
Pour moi, la lutte doit être globale. Le combat des années 70 était soit radical, révolutionnaire, soit réformiste, avec des articles, des livres, des débats et des émissions de radio pirates à la fin des années, Radio Roquette, Radio Dédalus, puis plus tard les radios libres de 81, faussement libres. Enfin bon, quelques-unes le sont quand même. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas opposer telle lutte à telle lutte. Moi, à l'intérieur de l'hôpital, j'ai toujours été un réformiste. Je me suis battu comme un fou, j'ai failli être viré 4 fois. Je ne le regrette pas, j'ai gagné. J'ai implanté des méthodes et j'ai participé avec d'autres gens du réseau alternatif à la psychiatrie à un certain type de réflexion, de pensée et d'action contre la psychiatrie pour aider à sortir des gens. Il y en a même que j'ai fait évader. Je ne me suis pas gradé, je ne me suis pas du tout gratté pour le faire. Et ça a été dit officiellement par une militante de Saint-Denis, à l'Université populaire de Saint-Denis. Oui, Jacques, il m'a fait évader dans sa voiture plusieurs fois de Villiers-Bras. Je le dis, ça ne me gêne pas. Donc tous les moyens pour moi sont à employer pour lutter contre un système inique comme le nôtre. À partir de là, la radio, évidemment... Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est. Ils croient qu'on peut envoyer des messages aux taulards. Pour que les choses soient claires, nous, on n'a pas cette rubrique comme il y en avait une à Parloir Libre. Mais on accepte de temps en temps d'envoyer des messages à des taulards parce que les gens nous le demandent, alors individuellement de temps en temps. Et nous-mêmes, on salue les taulards qui nous écrivent parce qu'on a quand même du courrier. Donc, je pense que c'est très important pour les taulards qui sont dedans, parce qu'ils nous disent à quel point ça leur fait du bien, ça vous devez le savoir pour vous aussi. Et ils nous permettent aussi d'avoir des informations sur la prison et de ne pas parler à tort et à travers en disant n'importe quoi, c'est-à-dire en balançant nos fantasmes sur la prison. Nous, on parle toujours de la réalité, on lit du courrier de l'intérieur. Quand ça craint trop pour le taulard, comme El Clandestino dans tel taule de France, ben on ne dit pas son nom, ou Ringo Levio, on a des gens où le prisonnier 11003, c'est des gens, ils prennent des pseudos parce que ça craint. Il y en a quand même un jour qui a été convoqué dans le bureau du directeur, on lui passait une cassette, et c'était Nicole qui était en train de lire une lettre de lui, mission impossible. Alors on a dit, c'est vous cette lettre, hein, monsieur Intel? Non, non, il a nié, mais tout le monde savait, puisqu'il avait été dénoncé. Donc, Voilà, ça aide à soutenir ceux qui se battent à l'intérieur. Ça peut aider certains à faire des prises de conscience politiques, donc à davantage lutter sur un mode collectif. À mon avis, ça participe de la déconstruction de la prison, mais c'est qu'un élément parmi les autres dans un dispositif de résistance et de lutte. Mais il est bien évident que ce n'est pas une lutte révolutionnaire. Ça l'est dans l'esprit, mais dans les faits, ça ne fout pas les murs par terre.
Bon, ben, merci bien.
Ben, s'il y a des taulards à la Talaudière qui écoutent, vous avez un grand bonjour de Jacques, donc de Ras-les-Murs, sur Radio Libertaire. Il y en a peut-être qui sont passés en région parisienne à une époque et qui ont écouté Ras-les-Murs. Un grand bonjour fraternel.
Quand parler d'authenticité devient ringard, les salopards de gauche qui parlaient au nom du peuple lui font un petit dans le dos. Quand ils ont fait le tour et qu'ils doivent nourrir leur art, l'éloge de l'indifférence arrive dans l'air par kilo. Un, deux, essai, j'ai plus quoi penser. Laisse le doute planer sans le faire basculer. Je manque d'oxygène, tu sais. Mon ventre est lourd, serré et ma haine reste feutrée. Feutrée par l'hypocrisie qui nous entoure. Tant de clichés du ciné à l'artistique alentour. Tout est dit, même sans discours. Les clichés laissent figer et sur certains pèsent si lourd. J'ai croisé le roi lion dans sa savane. Et il n'y a que le singe qui a l'accent africain. J'ai croisé Shrek et son âne. C'est l'âne qui a l'accent antillais. Je garde ça dans l'âme si bien que dans ma tête la savane est en feu. J'ai besoin d'oxygène, mais les brindilles en flammes font feu d'artifice de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous mènent au devant de la scène et puis qui nous saignent. Besoin d'oxygène, comme les caricatures que l'incendie réveille. Les artistes en selle se moquent et nous dépeignent. C'est leur seul requiem car sont plus proches du pont des arts que de l'art. L'art en lui-même, on intériorise plus vite leur récit que nous prenons le temps de combattre la connerie. C'est que la connerie habite nos télés, nos ciné, nos radios et investit trop d'esprit. Ce marché me dérange, y'en a qui le défendent. Pourtant ce n'est que du cliché qu'ils pompent. Le X c'est que seuls eux finissent ensemble et dans leur ronde nous montrent qu'on n'est pas du même monde. Je manque d'oxygène. Tu sais, mon ventre est lourd, serré et ma haine feutrée. Un de concret, j'ai creusé le doute et c'est quoi penser. Les artistes sont tièdes et ont besoin d'être cons pour réchauffer leur création. Si les anciens savaient ce que nous foutons de leur liberté d'expression, n'en auraient pas sué comme d'un marathon au fond. L'intégration n'est qu'humiliation qui fait rire la salle. Vos rires de pauvres sont des balles et vos moqueries les rafales. Alors pourquoi s'étonnerait-on d'un repli communautaire en aval. Je huilerai les marches de Cannes, leurs frais avaler leurs fans. La France ne demande qu'à être aimée mais aime voir sa progéniture en singe, en âne. Nos bouffons exorciste, débile, tapeur, troufion, objet exotique, sportif, rappeur. Faut résister dans notre malheur, changer d'art ou changer de spectateur. Ça fait partie du patrimoine, tu sais. Tant de clichés, si bien figé, c'est pas neuf. C'est ça qui fait tant de succès. Un noir, un maghrébin et puis un gun. Et loin de là, ils se pavanent sur la cité. Font un zoo de nos manœuvres et nous en abreuvent. Sur un fond sonore rap bien rythmé, mais bien loin du burn, Hollywood burn. C'est fou comme la culture est raciste. De gauche et de droite sont dans les mêmes blagues. Parce que la culture est impérialiste. Tout ce que ça arrange creuse dans le même sable, tu comprendras aisément que les gens typés y a une gêne. Cours se montrer tel qu'on les vend, tel qu'on les craint, qu'on les aime. Cours vers les miettes d'une fortune créée sur leur épiderme. Ou bien sature et recherche de l'oxygène, de l'oxygène.
Et ben voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur Radio Dio 89.5. Donc on vient d'écouter l'interview de Jacques le Sage de la Haie. Et là, un petit morceau de Rossé qui s'appelle Besoin d'oxygène. Et donc là, je crois qu'on continue avec des lectures. Mais Elsa, tu veux le présenter?
Voilà, oui. Donc on va enchaîner avec des lectures. Donc je rappelle juste que l'interview de Jacques qu'on a écouté. Donc déjà, merci beaucoup, monsieur le Sage de la Haie, de nous avoir répondu pour cette interview. Et donc je voulais rappeler qu'il fait une émission sur les prisons de radio à Paris, qui s'appelle Ras-les-Murs. Et aussi, il en parle à plusieurs reprises dans l'interview qu'on vient d'écouter. Il a écrit un livre qui s'appelle La guillotine du sexe, donc qui parle plus précisément de toutes ces questions, en fait. Et on est allé voir un peu dans d'autres bouquins, et en particulier un autre dont on vous a déjà parlé à Papillon, qui s'appelle Un peu de bon sens que diable, qui est gratuit, mais un peu difficile à trouver. Si jamais il vous intéresse, il faudrait nous le demander directement. Donc, on vous rappellera l'adresse de l'émission en fin d'émission. Voilà, donc Un peu de bon sens que diable. Il a été écrit par un collectif de Lille qui faisait aussi une émission contre les prisons. Et ce collectif s'appelle La Brèche. Et en fait, c'est un livre sur les cinq sens et la manière dont ils sont altérés par la prison. Plus on y reste d'ailleurs, plus les cinq sens sont altérés. Mais Il parle aussi de la manière dont on peut, dont les prisonniers et prisonnières résistent à cette altération des sens, à cette chose qui bouffe, qui les bouffe littéralement jusque dans leur corps, etc. Enfin voilà, c'est un livre vraiment super intéressant parce que justement c'est assez noir, mais pas du tout misérabiliste et voilà, voilà. Voilà, très intéressant donc. Et dans le paragraphe sur le toucher, il y a plusieurs passages qui abordent les questions de l'affectivité, de la sexualité en prison. Donc au lieu d'en parler pas trop bien, on s'est dit qu'on allait vous en lire quelques passages. Voilà, donc on vous a fait des petites lectures qu'on va écouter dans quelques secondes. Juste avant, je voudrais dire que ces textes, ils sont basés sur des tonnes de témoignages qu'ils ont lus et recueillis, et sur pas mal de textes, articles, livres aussi qu'ils ont lus, et ils en ont fait une synthèse. Voilà, donc c'est basé quand même sur du concret, même si c'est des points de vue orientés toujours. Et donc dans ce que vous allez écouter, il y a une partie, c'est ce qui a été rédigé par le collectif La Brèche, et il y a des autres passages, et c'est des témoignages de prisonniers eux-mêmes et elles-mêmes. Voilà.
Les liens tactiles entre les détenus sont le plus souvent censurés car marqués par le soupçon, du moins chez les hommes. On privilégie alors les poignées de main viriles et chargées d'une certaine intensité, aux accolades ou aux embrassades, qui ne sont tolérées que lorsqu'elles renvoient à l'appartenance à un même groupe ou à un même gang. L'homosexualité masculine est particulièrement mal vue en détention. Ceux qui sont suspectés d'être homos sont, au mieux, la cible de quolibets, au pire, les victimes de violences sexuelles ou d'un profond ostracisme. Encore qu'il existe une différence d'appréciation du groupe selon que l'on soit jugé actif ou passif. Dans le premier cas, cela passe souvent par une hypermasculinité. Dans le second, pour une effémination très mal tolérée. L'homophobie, encore très répandue dans la population civile, semble exacerbée en détention, notamment à cause de la promiscuité et du danger de contagion que représente l'homosexualité sur un plan symbolique, exacerbé par des pratiques sexuelles, sodomie, fellation, auxquelles, il faut le rappeler, l'homosexualité ne se résume pas. Le code viril qui prévaut dans les détentions d'hommes entretient la valorisation d'une enveloppe ou d'une attitude rigide et fière. La notion de respect, par exemple, est très importante. Respecter l'autre, c'est d'abord le garder à distance. On accorde ainsi beaucoup d'importance au fait d'être bousculé, même du regard. Le contact, plus qu'ailleurs, est soumis à de nombreux codes qu'il convient de ne pas enfreindre, au risque de passer au contact, mais cette fois-ci des poings ou des pieds, c'est-à-dire à une autre forme de communication qu'est le combat au corps à corps, et qui peut être lu comme la possibilité d'étreindre physiquement le corps de l'autre sans être suspecté de pensée contraire. Partout où l'interdiction de toucher est la règle, se développent généralement des formes de lutte qui sont également un moyen d'éprouver ses sens hors de toute ambiguïté ou suspicion de la part de la communauté masculine.
En fait, dans les rapports qu'on a eus, c'est vrai par exemple, on se bastonnait beaucoup ensemble. C'est une façon de se défouler, je crois que c'est aussi une façon de communiquer, d'avoir quand même des rapports, de se toucher quoi en fait.
Se toucher, ça veut dire aussi se masturber. Du fait que la prison est une enclave où la sexualité est interdite, les détenus se branlent. La pratique est tolérée. Seule la réforme du régime pénitentiaire disciplinaire du 2 avril 1996 notifie que constitue une faute de deuxième degré le fait d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur. Ah, la prose légendaire de l'administration pénitentiaire qui métaphorise la masturbation en acte obscène et le regard vicelard du maton derrière l'œilleton en pudeur offensée. Ça manquait de poésie. Voilà qui est fait. Donc oui, les détenus se branlent pour pallier à des carences sexuelles, mais également affectives ou tout autre. Car la sexualité ne sert pas qu'à se reproduire et recouvre d'autres affects que la seule satisfaction génitale. On constate néanmoins que cette pratique découle d'une misère sexuelle imposée et qu'elle est chargée généralement d'une honte de l'intimité exposée et observée. Ces pratiques clandestines et entrevues sont parfois dégradantes pour celui ou celle qui s'y adonne. Mais toujours substitutive, alors qu'à l'extérieur, la masturbation peut être perçue comme un acte autonome de libération. En tôle, la mutilation n'est jamais loin, celle du plaisir présent ou du plaisir futur. Les témoignages concernant cette vision de la prison comme la guillotine du sexe sont accablants.
Si tu veux, je pense à une éjaculation précoce. Parce que quand on est en prison et qu'on passe par une masturbation quasi obligatoire, ce qui t'intéresse c'est l'éjaculation, donc le bien-être. Donc à la limite, tu ne t'y attardes pas, tu te donnes du plaisir le plus vite possible. Ensuite, quand tu te retrouves dans les bras d'une femme, c'est comme si en fait, malgré toi, tu aboutissais très vite à ton plaisir et donc tu as beaucoup moins la notion de couple qui fait l'amour dans le plaisir.
Derrière cette privation de sexualité et les différentes manières de la vivre, c'est la perception que l'on a de son propre corps qui est mise en jeu. Dans le cas où on ne peut plus le saquer, ça semble difficile de vouloir se faire du bien à l'autre.
D'autre part, le fait que ces pratiques clandestines soient tolérées par les autorités montre que la sexualité est conçue comme un moyen de régulation et de gestion de la détention au même titre que les fioles ou les parloirs. Le film porno de Canal+, participerait-il à la bonne tenue des établissements pénitentiaires ? En tout cas, ne pas sanctionner les pratiques masturbatoires concourt au maintien d'un équilibre interne. La sexualité apparaît paradoxalement comme un rouage du fonctionnement pénitentiaire. C'est d'ailleurs l'une des principales critiques émises à l'encontre des unités de vie familiale.
Jacques Le Sage de La Haye, dans son livre « La guillotine du sexe », explique « La frustration affective et sexuelle déstructure l'individu à plus ou moins long terme. Elle l'oblige à s'enfermer dans un fonctionnement auto-érotique, quasi-cybernétique, émetteur-récepteur, virtuel et parfois pervers, en totale rupture de communication. Au-delà de quelques années, certains effets sont irréversibles. Des femmes et des hommes vont désormais traîner toute leur vie une étouffante inaffectivité, de graves troubles sexuels et une véritable incapacité à entrer profondément en relation avec l'autre. Le droit à l'intimité pose les limites de la prison, et la vie redevient possible avec le corps, les émotions, l'affectivité, peut-être l'amour. C'est l'abolition du béton, du métal, du vide, de la violence et de la mort lente, donc de la prison. »
On assiste au cours de l'emprisonnement à une incapacité de plus en plus grande à toucher ou à être touché. La suppression de l'intimité modifie non seulement le rapport qu'on entretient avec son corps, mais aussi avec celui des autres.
Donc, on a passé pratiquement 6 mois et demi toutes les deux dans la même cellule. Et donc, toutes les deux, on a eu très peu envie de faire l'amour. Parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Et puis, il y a cet œil-ton, ce putain d'œil qui fait que tu es maté n'importe quand, n'importe comment. Donc tu n'as absolument aucune intimité. De toute façon, on n'en avait pas envie, quoi.
Cette incapacité physique au contact est particulièrement douloureuse lors des visites au parloir, où la réticence d'être touché par l'autre crée un malaise d'autant plus pesant que sa présence est de longue date attendue ou fantasmée. Mais certains parviennent à maintenir leur libido malgré la détention et la distance qu'elle crée dans leur couple. Et encore une fois, l'imagination humaine n'a pas de limite lorsqu'il s'agit de contourner le règlement et de s'évader, même quelques instants. Les filles partagent entre elles leurs secrets et leurs bottes secrètes en attendant leur parloir. Mais certaines prisons ne se prêtent guère aux fredaines amoureuses, notamment celles où l'espace parloir n'est pas cloisonné en box individuelle mais collective. Il faut également préciser que c'est beaucoup plus facile d'avoir des relations sexuelles en parloir pour les hommes que pour les femmes. Alors que l'homosexualité est stigmatisée chez la gente masculine, le lesbianisme est toléré chez les femmes. A l'inverse, l'hétérosexualité au parloir est tolérée chez les hommes, mais les rapports génitaux hétérosexuels sont strictement interdits chez les femmes. C'est évidemment dû au fait que l'organisation spatiale des parloirs ne le permet pas, parloir collectif, mais aussi et surtout que le risque de grossesse constitue une preuve matérielle incontestable de la négligence des surveillantes. De plus, plane sur la détention femme l'image de la maison close et de la surveillante comme mère maquerelle. Elle préfère donc assurer le rôle de la bonne sœur, ce qu'elles étaient avant, c'est-à-dire des protectrices de la vertu de ces dames. On surveille moins les établissements pour femmes pour empêcher l'évasion que pour interdire les effractions de cet univers féminin qui, symboliquement, doit rester chaste.
Article D249-2 et D408 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, en cas de relation sexuelle au parloir, le surveillant peut mettre un terme à la visite, qui peut alors décider de suspendre ou de retirer ce permis. un recours contentieux devant le tribunal administratif peut être effectué contre une telle mesure.
Des postures amoureuses aux techniques de la subversion, le Kama Sutra se fait abolitionniste.
Les prisonniers et prisonnières font preuve d'une ingéniosité sans pareil dans l'art des caresses et du plaisir. Le Kama Sutra pourrait peut-être même s'enrichir de positions savantes et compliquées, conçues créées amants et amantes dans les parloirs de nos prisons. L'affection aussi est une arme, et elle donne la force pour affronter le quotidien carcéral. Mais ce n'est pas si simple. Se blinder en prison, c'est une nécessité pour survivre, pour ne pas être écrasé par le rouleau compresseur, pour se protéger des humiliations, de la fouille au corps ou d'être tabassé par les matons. Mais le revers de cette protection peut être aussi une difficulté à témoigner ou à recevoir de l'affection. Témoignage d'un ancien détenu.
J'étais un bulldozer. Je m'étais forgé pendant mon temps d'incarcération une carapace virile, un blindage à la sensibilité, derrière lequel se cachaient mes peurs et mes appréhensions vis-à-vis des femmes. Il m'a fallu énormément de temps et d'efforts pour me reconstruire sur ce plan.
And it's all like a bird, and it's over the city. Three men are missing, I hear the warning cry. Well, it must have been a bird that flew into the prison, or one of these humans who sat the water in Mountjoy. Well, there they were mortal, as a branchman they were sleeping. Little helicopter, it flew across the sky. It landed in the yards where the prisoners were walking. Get ready for inspection, said the warder in Mountjoy. And it sung like a bird, and it sobered the city. Three men are missing, I hear the warder cry. Well, it must have been a bird that flew into the prison, or one of these new ministers sat the warder in Mountjoy. Well, down to the yard, through the pushing and the shoving, three of our prisoners, they climbed upon the birds. Then up and away, they flew into the gray sky. I think there's someone escaping, sat the warder in Mountjoy. And it sung like a bird, and it sobered the city. Three men are missing, I hear the warder cry. Well, it must have been a bird that flew them to the prison, or one of these two ministers at the warder in Mountjoy. Well, down in the Doyle, they were drinking gin and brandy. Minister for Justice was soaking up the sun. When along came the news that some prisoners had escaped them, I think it's three of the provost and the warder in Mountjoy. Well, search every hole, search every nook and cranny. Let no man rest until these men are found. For this cannot happen to a law and order government. I think we'll never find us at the warder in Mountjoy. And it's soft like a bird, and it's over the city. We never listen, I hear the warden cry. Well, it must have been a bird
that we will do the prison, or one of these Jupiters to set the order in Mountjoy.
Vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur Radio Dio 89.5 et on vient d'écouter Helicopter Songs. Donc c'est une petite chanson qui raconte l'évasion par hélicoptère de trois membres de l'IRA le 31 octobre 1973 à la prison de Mountjoy à Dublin. Donc pour la petite histoire, c'est assez intéressante, c'est que cette évasion, elle a fait les gros titres dans les journaux du monde entier, car il s'agirait de la première évasion par hélicoptère dans l'histoire. Pour attraper les trois fuyards, il a été mobilisé 20 000 policiers et 20 000 et soldats. Et le premier, lui, il a été rattrapé au bout de quelques mois, le second au bout d'un an, et le dernier au bout de 4 ans. Et l'anecdote, c'est que cette chanson, en fait, elle a été écrite par les Wolfton, et elle a été tout de suite censurée par le gouvernement. Et malgré l'interdiction, elle a été en tête de la musique populaire irlandaise pendant 4 semaines. Donc voilà.
Bon, ben, sinon, après l'Irlande, on va revenir un petit peu à l'interview de Jacques Le Sage de La Haye. Et on voulait un petit peu parler des unités de vie familiale qui ont été créées finalement et pour pallier justement à ce problème d'affectivité en prison. Alors, on a une petite définition de l'OIP sur ces unités de vie familiale qu'on appelle couramment UVF. Donc, c'est un lieu privatif permettant à la famille dont l'un des membres est détenu de vivre intramuros pendant un certain temps toutes les dimensions de la vie familiale, y compris sexuelle. Donc concrètement, ces UVF, ce sont des petits appartements qui sont à l'intérieur de la prison. Ils sont constitués de plusieurs pièces. Il y a une chambre, une petite cuisine, la télé. Les gens peuvent se retrouver là donc pendant quelques temps et ils peuvent y faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas dérangés normalement par les matons. Donc en fait dans ces UVF le prisonnier a droit une fois par trimestre et ça peut durer de 6 heures à 48 heures voire 72 heures mais une seule fois par an. Donc c'est quand même très limité, très restrictif. Et maintenant, on va un petit peu faire l'historique de ces UVF.
Oui, alors pour compléter, en général, il s'agit de F2 ou F3, en fait, dans ce qu'on a pu trouver. Et au niveau de l'histoire, Jacques Le Sage de La Haye, il en parle un petit peu. Et le premier truc qu'il pouvait avoir, c'était à la prison de Mozac. Donc il y avait des parloirs intimes qui ont été tolérés de 86 à 89. Et il en parle aussi vaguement. Apparemment, c'est à partir de juin 1995 que l'idée a commencé à se concrétiser un peu. Il y a un groupe de travail qui était chargé de réfléchir à la question, etc., et qui a rendu ses conclusions en disant, je cite, « Il est proposé l'instauration dans les établissements pénitentiaires de lieux privatifs permettant à la famille, etc., par rapport à la définition qui a été donnée tout à l'heure, de vivre pendant un certain temps toutes les dimensions de la vie familiale. » De la préparation de serpents, un sommeil partagé en passant par des rapports amoureux. Alors après, les premières unités de vie familiale, mais donc étaient expérimentales, ça a été en 2003. Dominique Perban a annoncé officiellement le lancement, l'expérimentation de ces dispositifs. Et la première fois où il y a une personne détenue qui a pu rencontrer quelqu'un de sa famille, c'était le 26 septembre 2003 et c'était à Rennes. Donc c'était une prison pour femmes. Et la décision d'essayer d'expérimenter ces unités de vie familiale, c'était aussi par la comparaison avec d'autres pays. Pareil, dans l'interview, Jacques Le Sage de La Haye en parle un peu. Par exemple, le Danemark, l'Écosse, la Finlande, l'Espagne, le Canada, où il y avait des dispositifs comme ça, en fait.
Ce que je veux dire aussi, c'est que dans ces lieux d'unité de vie, en fait, la personne qui est... il y a le détenu avec l'autre personne, mais ces gens ne sortent pas de cet appartement quand même. Alors quand c'est une permission d'unité de vie de 48 heures, pendant 48 heures, l'autre personne, elle est aussi enfermée, ils n'ont pas le droit de sortir. Alors parfois, il y a un petit jardinet, parce qu'on imagine s'il y a des mots avec
si les gens ont des mômes, pendant 2 jours ou 3 jours, les gens n'ont pas le droit de sortir. Donc, ils ont mis quand même des petits jardinets pour pouvoir s'aérer un peu, quoi, parce que c'est infernal de retrouver une vie comme ça. Alors, c'est une vie familiale, bien sûr. Tout est, comme disait aussi Jacques, on est dans une société quand même pas mal paternaliste. Donc, il faut bien retrouver ces valeurs de la famille. Mais de l'autre côté, on n'a pas le droit d'en sortir, quoi. On est coincé entre 4 murs ou 3 pièces. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'échappatoire là-dedans. Donc, c'est quand même assez lourd aussi à vivre pour les proches qui viennent.
Ouais, puis il faut aussi dire qu'il y en a peu.
Oui.
Que du coup, par rapport à la petite histoire des unités de vie familiale, en fait, au départ, il y avait 3 sites pilotes. Donc, c'était Rennes, Poissy et Saint-Martin-de-Ré, qui ont été ouverts donc, en 2003 pour Rennes, 2005 pour Poissy et 2004 pour Saint-Martin-de-Ré. Et en fait, dans l'absolu, les trois sites devaient accueillir en même temps des unités de vie familiale, sauf que du coup, ça a été échelonné. Il y aurait dû avoir 18 mois d'expérimentation et après une extension. Et en fait, dans les textes législatifs, etc., tout le monde a été, tout le monde reconnaissait le succès de ces unités de vie familiale, mais au final, il n'y a pas eu vraiment d'extension. Il y a juste eu en 2006 4 autres sites, je crois. Qu'ont eu accès aux unités de vie familiale. Et par contre, dans la même année, donc en 2007, ils ont fait des parloirs familiaux au lieu de faire des unités de vie familiale, en fait. Voilà. Et donc, voilà, il n'y a pas eu vraiment d'extension qui a été mise en place après. Et dans les chiffres qu'on a dû trouver, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui sont équipés. Par contre, Rachida Dati a annoncé que tous les nouveaux centres construits seront pourvus de ces UVF. Donc, par exemple, Rouen.
Oui.
Il y en a trois.
Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les personnes qui ont accès à ces UVF, ce sont quand même des détenus qui n'ont pas le droit de sortie. Donc, ce sont des gens qui sont complètement coupés et de leurs amis et de leur famille. Alors, on met toujours l'accent sur la famille. Mais je crois que les homosexuels, par exemple, qui souhaiteraient recevoir leur compagnon, peuvent pas.
Oui, j'ai vu des textes passer comme ça.
C'est pour les hétéros, ça. On refoule complètement le reste, quoi. Donc c'est toujours cette idée de la famille bien jolie, le papa, la maman et les enfants. Après, c'est vrai que le besoin d'un détenu qui est en détention, il n'a peut-être pas envie de revoir sa mère, mais il préférerait peut-être voir son pote, quoi. Voilà. Donc c'est toujours ambigu, c'est toujours c'est jamais fait dans le sens où on veut aider le détenu, mais c'est pour être bien pensant, et comme tu disais, c'est pour se conformer aussi aux autres pays, et puis dire, mais voyez, la France, c'est quand même le pays des droits de l'homme, et oui, les gens ont le droit de voir leur mari ou leur femme. Voilà, c'est...
Oui, par rapport à ce que tu disais, du coup, les conditions un peu pour les unités de vie familiale, c'est que des gens qui sont condamnés à de longues peines et qui n'ont pas d'aménagement possible pour l'instant. Et après, pour les gens qui peuvent aller voir un proche dans ces unités, eh ben, c'est soit des gens de la famille proche avec un lien légal reconnu, soit des gens de la famille un peu plus élargie, soit...
Des cousins, des tantes.
Voilà, des cousins ou des tantes, ou soit des personnes qui n'ont pas un lien juridique établi, mais il faut être en capacité de prouver, par exemple, pour un conjoint, que les personnes vivaient bien ensemble avant l'incarcération. Et du coup, il y a une enquête sociale qui est lancée de la part du SPIB, service...
de probation et d'insertion pénitentiaire,
je pense. Et l'enquête, elle est lancée à la fois sur la personne détenue et à la fois sur les gens... qui veulent aller voir la personne. Et puis, pour compléter un peu ce que tu disais tout à l'heure, donc c'est entre 6 et 72 heures,
oui.
Une fois par trimestre, et 72 heures où c'est possible une fois dans l'année. Et par exemple, une autorisation pour aller voir quelqu'un en unité de vie familiale, c'est valable qu'une fois. Donc ça veut dire que si une personne veut y retourner une deuxième fois, et ben, il faut relancer toute la même procédure, faire une demande écrite au chef d'établissement, etc. C'est pas valable, mettons, pour un an. Il faut refaire la démarche à chaque fois, en fait.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait un petit peu envie de parler de ce problème de la sexualité, parce qu'on parle souvent dans l'enfermement, l'absence de liberté, l'absence d'activité, où, enfin, où la personne elle est vraiment enfermée entre quatre murs. Mais on élude souvent ce problème de la sexualité comme si c'était quelque chose qui n'existait pas, alors qu'on le sait, l'affectivité... Oui, moi, je pense que dans notre société, la sexualité, elle n'est pas encore... c'est pas quelque chose dont on parle facilement, c'est quelque chose de tabou. On a eu du mal à avoir nous-mêmes des interviews là-dessus. Les gens n'en parlent pas beaucoup. C'est pas quelque chose de simple à discuter parce que c'est quelque chose d'intime. Mais il est vrai que nous, étant donné qu'on vit une vie sexuelle normale, on se rend bien compte que les gens, c'est un manque. Quand on est enfermé pendant 10 ans, comme le sage, ou même pendant 2 ans, ou 6 mois, pendant 2 ans sans rien faire sexuellement, c'est quand même un manque qui est important. Donc,
C'est vrai qu'en plus, les unités de vie familiale, elles ont été, pas totalement, mais un peu présentées sous l'angle de pouvoir continuer une relation sexuelle normale, etc. Mais en fait, on s'aperçoit quand même que c'est un peu absurde. Déjà, par exemple, que c'est une fois par trimestre... En plus, ça concerne des gens qui sont condamnés depuis longtemps et pour certains qui ont eu déjà le temps de perdre tous leurs gens qui leur étaient proches. Oui. Et puis, il y a aussi le fait que le temps de l'administration pénitentiaire n'est pas le même que celui de la vie normale et que s'il faut attendre 6 mois ou 1 an pour avoir, par exemple, un permis pour aller dans une unité de vie familiale... C'est hyper long, non ?
Et ça veut dire aussi que les célibataires, ils n'auront jamais de rapport sexuel avec quelqu'un dans ces unités de vie. S'ils n'ont pas le droit de faire venir des prostituées ou quelqu'un d'autre, c'est pas possible, quoi. Pour eux, ça va être compliqué. Donc, c'est ce qui est un peu regrettable dans notre système pénitentiaire, quoi. Les gars, ou les femmes sont voués à l'abstinence ou effectivement la masturbation et... Ils s'en sortent pas, quoi.
Mais pour revenir à ce que disait Jacques Lesage de l'aide dans l'interview, du coup, c'est vrai que l'instauration de ces unités de vie familiale, c'était aussi la reconnaissance que la prison brise des liens, pas seulement des liens affectifs de manière assez générale. Et l'autre truc, où c'était sur Internet, où on a trouvé un petit passage un petit interview de Jacques Lesage de l'aide toujours. Et qui disait « Le droit à l'intimité pose les limites de la prison ». Et en fait, du coup, je trouvais que c'était intéressant parce que déjà, l'expérimentation, elle a pris beaucoup de retard. L'extension n'a pas été faite, alors que tout le monde disait que c'était un succès. Et que du coup, on peut se dire que c'était un manque de volonté politique ou une réticence des syndicats de surveillance, qui d'ailleurs a l'air d'être le cas. Mais ces histoires du VF, ça pose aussi la question, en fait, qu'elle questionne vraiment ce qu'est la prison et elle questionne vraiment le terme d'insertion. Et on voit, du coup, à contre-jour, que, du coup, l'insertion n'est pas possible en prison en brisant tout lien avec l'extérieur, avec les proches, etc. Moi, j'avais quand même l'impression que ces unités de vie familiale, elles mettaient trop en exergue, en fait, ce qu'était la prison et que, par exemple, les trucs d'insertion, c'était du blabla, en fait, qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de se réinsérer quand il a perdu tout lien avec l'extérieur, tous ses proches, qu'il n'a plus de relation avec sa famille, et que c'est peut-être aussi pour ça que ça a mis du temps.
Bien sûr, oui. Puis comment tu veux, par exemple, quand il dit c'est pour aussi les relations avec les enfants, quand les gens ont des enfants en bas âge, si le môme, il n'a pas vu son parent depuis 2 ans ou 3 ans, comment tu veux qu'il accepte là pendant 48 heures son parent d'un coup et qu'il recrée des liens comme ça, comme si avec un petit coup de baguette, on dit « Ah ben là, maintenant c'est le moment, allez, maintenant on fait du lien. » Et puis 48 heures après, « Allez, maintenant c'est fini, on rentre. » Et chacun retourne dans son coin et en fait, du lien, il n'y en a que dalle, quoi. C'est effectivement, les gens sont proches physiquement, mais c'est pas comme ça qu'on joue le rôle de parent sur un moment donné qu'on nous impose. Ça se crée, c'est au fil des jours, au fil des heures que ce lien se fait. C'est pas comme ça, subitement, ça nous tombe du ciel et puis on devient père pendant 48 heures. C'est que dalle. Donc, voilà.
Mais après, c'est vrai que même si c'est concrètement, je pense, une avancée pour les gens qui sont en prison quand même. Enfin, je m'imaginais, oui, c'est quand même une avancée. Mais c'est vrai que ça donne quand même l'impression que c'est aussi pour cadrer un peu les choses, notamment par rapport à la sexualité, mais en façade, en fait. Cadrer, par exemple, comme dans l'interview, les pratiques sexuelles qui pourraient être déviantes, ou les bébés parloirs, etc., et de dire... Non, il n'y a pas tant de souffrance que ça. On met quand même en place les unités dites familiales et que ça donne aussi l'impression d'être un peu une soupape, comme cette histoire de film pornographique, passer en détention, de faire une sorte de soupape de sécurité aussi.
Bien sûr. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est encore une raison de plus pour dire l'enfermement, c'est de la merde et ça ne sert à rien et d'enfermer les gens et de croire qu'on va les réinsérer parce qu'ils ont 15 jours, ils voient... Leur conjoint pendant 48 heures. Quoi. Et s'il est célibataire, une fois encore, il l'a dans le baba, parce que l'autre, il va voir sa grand-mère, c'est super, pendant 48 heures, face à face avec le tonton, c'est super. Il y a notre camarade qui veut dire quelque chose.
Non, je sais pas, est-ce que je peux me permettre de clore sur le sujet?
Oui, vas-y. Oui,
ouais, juste avant, j'aimerais faire une petite précision. Vas-y, vas-y. Enfin, je ne vais pas lever le débat là-dessus, mais depuis tout à l'heure, on parle de sexualité normale, on précise dite normale, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une sexualité normale. Voilà.
Bah, c'est quand tu peux assouvir ton besoin sexuel quand tu veux, voilà. Quelle que soit ta pratique sexuelle. C'est que quand tu as envie, tu fais l'amour quand tu as envie. Voilà. C'est ça, je pense, une sexualité normale, tout simplement.
Ok, moi, pour clore sur ce sujet, je voulais reparler d'un livre dont on a déjà parlé. C'est « Femmes de parloir » de Duska peut-être, Maximovic, voilà, qui a été sorti aux éditions L'Esprit Frappeur et qui est vachement intéressant. C'est une nana qui est tombée amoureuse d'un gars qui était déjà en taule et qui avait pris perpète et qui raconte leur histoire d'amour et comment c'est dur aussi. C'était... beau et très romantique aussi, mais c'était aussi très dur, et qui parle de toutes les femmes de parloir, c'est-à-dire de toutes ces femmes qui se tapent des kilomètres et des kilomètres pendant des années, qui se ruinent la santé et qui se ruinent financièrement, etc. Enfin bon, mais elle parle aussi des beaux côtés, elle parle de la force de ces femmes, etc. Et tout. Et justement, dans ce petit livre, qui n'est pas cher, j'espère qu'on le trouve encore dans le commerce, elle parle à plusieurs reprises de comment se passent les parloirs, de comment certaines essayent de gruger pour pouvoir faire un petit câlin, c'est pas toujours possible, du fait qu'elle s'est mariée en prison, que c'était super dur, et enfin, elle fait un petit retour, donc 5 ans à peu près après que son mari soit enfin sorti de prison, il y a les unités de vie familiale qui ont été instaurées, et elle fait un petit retour là-dessus, et elle, justement, c'est ce qu'elle dit, c'est « ça me met mal à l'aise », parce que je me suis demandé si quand mon chéri était en prison, j'aurais aimé ça. Effectivement, oui. Et en même temps, non, c'est horrible, quoi. Parce que les détenus seront triés sur le volet, parce que c'est une carotte un peu, et en échange, tout ce qui est donné par... Elle explique vachement bien que tout ce qui est donné par la prison, eh ben, y a un énorme chantage qui va avec aussi, et tout. Et voilà, quoi. Et en gros, je trouve comme dans un peu tous les exemples qu'on a cités aujourd'hui, se retrouve vraiment cette question que oui, il y a des choses horribles en prison et que c'est bien de lutter pour les aménager, quoi, mais que la prison, ça restera une grosse souffrance, quoi. Voilà. Ouais. Comme disait mon ami Nabil, par exemple, oui, la talaudière, c'est vachement mieux qu'avant, mais ça reste de la prison, ça reste de la souffrance avant tout, quoi. Voilà.
Bon, passe un petit morceau de musique.
Oui, alors c'est l'Enfance Rouge.
Donc voilà,
c'est un groupe, au passage, qui va jouer dans le cadre du festival Avatarium ce jeudi 9, je pense. Ouais, c'est ça.
Le jeudi 9, oui.
Voilà, donc voilà, on écoute la chanson « L'âme de fond ».
Je me souviens sabotant le dernier train. Qu'abaisse le soir, m'arrive le matin. Certains du dernier cri sur ma peau revivrait. Des eaux lâchées sans retenue et tout autour. Toujours porté tout autour.
Je voulais juste finir, moi, avec l'OIP. On a rencontré la personne qui s'occupe de l'OIP sur la région Rhône-Alpes, qui s'appelle Céline. Et on voulait un petit peu vous parler de ça, de l'OIP. Donc, en définition, c'est l'action de l'Observatoire consiste à faire connaître le sort réservé aux personnes privées de liberté et interpeller en même temps les pouvoirs publics sur les abus et les mauvais traitements dont elles peuvent faire l'objet. Alors l'OIP vérifie à chaque fois les dires qu'on leur rapporte. Hein. En même temps, l'OIP fait connaître les droits aux prisonniers et les aide dans leur démarche, dans leur démarche pour les faire valoir. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont, ils soutiennent, ils mettent en relation avec des avocats. Enfin, ils font un boulot formidable. Et l'Observatoire organise un réseau d'observateurs en tissant des liens avec les personnes qui franchissent quotidiennement les portes des prisons. Alors, c'est-à-dire avec le personnel, administration pénitentiaire et diverses catégories d'intervenants comme les éducateurs, les animateurs qui rentrent en prison. Donc, si vous êtes victime d'abus de la part de la pénitentiaire, c'est bien de contacter l'OIP. Ils peuvent vous aider dans les démarches. Alors, l'adresse, c'est OIP Coordination Rhône-Alpes. 57 rue Sébastien Griff, 69 007 Lyon. Le téléphone, c'est le 09 50 92 00 34. Et bien sûr, ils ont un site internet. Donc voilà l'adresse, Céline, alors tout en minuscule, hein. Céline.reui, alors je vais épeler R-E-I, M-E-R-I-N-G-E-R @oip.org. Donc n'hésitez pas à les contacter.
Sinon, le mercredi 29 avril, je suis en train de chercher le nom, au Remue-Ménage, donc, qui est rue Désiré-Claude à Saint-Étienne.
Derrière la fac.
Oui. On organise une soirée discussion donc, avec la présentation de notre émission, donc Papillon, des témoignages et une discussion ouverte. Donc, qui veut vient.
Faites passer le message.
Nous serons là, en chair et en os.
Donc, c'est le 29 avril à 20h.
Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire, des contacts à donner?
Algomas,
on voulait redonner les contacts de l'ARPI.
Oui,
ouais, c'est vrai.
C'est OK, bah, personne ne les a notés, c'est parfait. Bah voilà, il y a toujours l'ARPI, qui est une association pour le respect des proches de personnes incarcérées, et qui est prête à, qui est basée sur Paris, mais qui est carrément prête à aider les gens. Donc on vous donne le contact régulièrement, là on l'a plus sous les yeux. Donc,
si façon, vous, oui, vous pouvez regarder sur le net.
Voilà, si par vous contre, n'êtes pas en prison, si vous n'êtes pas en prison, vous pouvez regarder sur le net.
Et c'est quoi notre adresse internet ?
Notre adresse à nous, c'est émission papillon, tout attaché, sans accent, @riseup.net, riseup.net.
Quel
accent ? Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire par la poste aussi. Entre autres, je ne sais pas si vous avez des réactions ou des compléments sur l'émission qu'on vient de faire, par exemple, ou si vous voulez nous raconter quoi que ce soit ou nous demander des conseils, par exemple, si on peut essayer de les trouver, nous, de là où on est. Donc, notre adresse, c'est émission papillon, chez Radio Dio, 14 rue de Roubaix, 42100 Saint-Étienne. Voilà.
Et juste avant de clôturer, on va juste avoir une petite pensée pour Mehdi, qui était venu témoigner de son incarcération le mois dernier à l'émission et qui, là, apparemment, est retourné en prison. Donc, il serait à Saint-Quentin-Fallavier.
Bon, un petit bonjour.
Voilà, si au cours de vos transferts, vous le croisez, passez-lui le bonjour. Et un dernier message. Donc celui-là, c'est pour Sylvie, qui est à la Talo. Et c'est entre autres de la part de Sophie. Donc elle te fait une grosse bise. On va te faire parvenir ce que tu as demandé, ce dont tu as besoin, le linge, tout ça. Les lettres ont dû se croiser. Et ça y est, j'ai enfin reçu ta lettre. Effectivement, plus de 15 jours après que je l'ai écrite. Voilà, ça c'est, je cite ce qu'elle, le message qu'elle voulait te faire passer, vu qu'elle est au stade.
On les salue voilà. Bien d'ailleurs, nos camarades.
Voilà, et elle dit, grosse bise et bon courage. Et moi, c'est Elsa, et pareil Sylvie, grosse bise et bon courage, j'attends de tes nouvelles. Je voulais rappeler aussi la clé des ondes, le mercredi sur Radio Dio, 89.5 FM, toujours, de 17h30 à 19h, vous pouvez appeler en direct et laisser des messages aux détenus de la Talo. Voilà.
L'émission passe sur le canal interne de la télé de la Talo.
Voilà. Et peut-être pour finir, une énorme bise à Nabil et puis bon courage à tout le monde là-bas dedans. On pense à vous.
Et salut donc, Sylvie.
Ouais, pardon. Et cette émission, elle sera rediffusée le jeudi 9 avril. Et nous, on se retrouve pour la prochaine émission le premier dimanche du mois de mai, c'est-à-dire le 3 mai à 17h30. D'ici là, prenez soin de vous.
Salut tout le monde.
Bon courage. Ciao.